Maurice Strauss, Andanworth, chapitre 12. Voilà pas mal de temps, me semble-t-il, que je n'ai respiré l'air de Paris. Depuis 4 ans, je voyage. J'ai parcouru les Amériques, visité le Japon, la Chine et l'Inde. Me voici en Égypte. Oh, il me tarde de revoir la vieille Europe. 4 ans. En 4 années, il passe beaucoup d'eau sous les ponts de la Seine. Rien de tel que de voyager. Sortir de la circulation, cela permet d'y rentrer inaperçu. Une fois à Paris, il me sera facile d'apprendre ce que l'on dit à Londres. Et je saurai d'où souffle le vent. Vous voyez en conséquence. J'ai idée que je vais avoir mes coudées franches. Je prends congé de mon Américain dont la gratitude tout à fait obsédante se traduit par d'emphatiques discours. Je le laisse en tête à tête avec son faux Ramsès. Pour lui, c'est le vrai. Et n'est-ce pas la foi qui sauve? L'illusion n'est-elle pas le reflet de l'insaisissable bonheur? Je pars, je débarque à Marseille. Le temps de savourer chez Bassot une bouillabaisse riche en safran, où la scasse s'abonde, et me voilà dans le train rapide dit Côte d'Azur. À Paris, je vais faire visite à mon ami R. C'est un médecin très en vogue et qui demeure dans un fort bel appartement au boulevard Haussmann. Au cours de la conversation, incidemment, j'apprends que son loyer est de 20 000 francs. Comment? Mais alors, ce vaste immeuble, palais aux ornements de plâtre, doit rapporter à sa propriétaire des revenus fantastiques. Oh, pas loin de 200 000 francs. Et mon ami m'explique la routine du terme parisien. La concierge, souriante ce jour-là, heureuse du désagrément des locataires, présente les quittances en caisse. Et le soir venu, remet le total au propriétaire. Ah oui, cela se passe ainsi. Dans une semaine, c'est le terme du 15 avril. Oh, je ne sais pas d'où cela m'est venu, mais j'ai un peu mal à la gorge. Des picotements à la luette, une sensation de brûlure. Je cours chez mon ami le docteur. Oh, rien du tout, votre gorge est parfaitement saine. Vous n'êtes malade que d'imagination. J'insiste, je sais bien ce que je ressens. Et s'il n'y paraît pas, si les symptômes extérieurs manquent, c'est d'autant plus grave. Il se moque, assure qu'il ne me savait pas si poltron, et finit par me prescrire un innocent gargarisme. De plus en plus inquiet sur ce léger bobo qui persiste, je multiplie mes visites qui se mettent en rapport avec les gens de la loge qui je témoigne une politesse condescendante. Le concierge a une passion, le billard. Pour lui, la raison et la fin de toute chose se résument à la joie de pousser les billes d'ivoire sur le drap vert et de réussir une longue série de carambolages. Si bien qu'il est invariablement sorti après le déjeuner et que l'après-midi, madame son épouse, la concierge, seule, garde la loge. Cette concierge est la perle des concierges, une rareté sans pareille, adorée de ses locataires. Diligente à leur distribuer les lettres, dès que le facteur a passé, elle est avare d'observation, aux bonnes et tolérantes aux fournisseurs. Mais elle a un faible, son perroquet, bruyant, monotone, insupportable, comme tous les perroquets. Et elle m'en raconte l'histoire. Figurez-vous, monsieur, que le propriétaire m'a mis le marché en main. Je vais m'en aller ou me séparer de Coco. Un perroquet dans la loge du plus bel immeuble de Paris, c'était intolérable, me disait-il. Eh bien, j'ai préféré m'en aller, sacrifier la loge. Oh, c'est la seule fois, je vous le jure, monsieur, que j'ai tenu tête à M. Ducollet, mon époux, la seule fois depuis notre mariage, que je me suis révolté contre son autorité conjugale, dont au reste, il n'abuse point. Car il ne s'excite que pour son billard. Je n'ai pas d'enfant, monsieur, et Coco m'est cher pour toutes les peines qu'il m'a causées. Très bien, fis-je à part moi. Coco, tu seras mon complice. Et toi, au moins, tu ne me trahiras pas, car si tu bavardes sans cesse, ton bavardage reste innocent. Mais pour m'assurer la complicité de Coco, il fallait falloir l'y obliger. Dans ce but, une autre aide me devenait nécessaire. Je songeais alors à un petit garçon qui me parut tout à fait digne de remplir le rôle de comparse actif et inconscient dont j'avais besoin. C'était un enfant pâle et chétif, farouche, de misère, mais avec dans ses yeux une expression d'énergie qui m'avait frappé. J'avais fait la connaissance de ce gamin en me présentant à lui sous le dehors de l'intervention providentielle. Je passais par la chaussée d'Antin et je l'avisais qui, l'air famélique et gourmand, s'aplatissait le nez contre la vitrine d'un pâtissier en ardente convoitise des gâteaux étalés. J'observais un moment ce drame muet. Puis, l'engageant à me suivre, le conduisant par la main pour l'y décider, je le fis entrer dans la boutique et je lui fis manger tant qu'il en put de ces gâteaux qu'il avait si durement tentés. Oh, il ne m'a même pas dit merci, mais ce regard. Si bien que peu de jours après, le retrouvant au même endroit, j'avais renouvelé mon festin. Dès lors, ce fut comme un accord tacite. Si à 3 heures de l'après-midi, je passais par la chaussée d'Antin, je pouvais être sûr d'y trouver le gosse. Montant la faction près de la pâtisserie et soupirant d'aise quand il me voyait venir, certain de son régal. J'y allais donc et, après l'avoir bien empiffré, je lui recommandais de se trouver sans faute le lendemain, à la même heure, au coin de la rue Miroménil et du boulevard Haussmann. Où y a tout près de là une pâtisserie où les gâteaux sont encore meilleurs qu'ici, déclarai-je, pour me garantir sa ponctualité. Puis je lui fis cadeau d'une belle pièce de 100 sous, toute neuve, toute reluisante. Oh, je lui aurais bien donné davantage, si j'avais craint des complications infiniment probables, étant donné ses méchants habits, son aspect d'enfant pauvre. Bref, il fut exact au rendez-vous. En y arrivant, je le trouvai au lieu indiqué, je lui dis « Veux-tu me rendre service ?»« Bien sûr. Et vous savez, je m'y attendais. Je savais bien que vous feriez par me demander quelque chose. On fait rien pour rien. » Devant cette boutade, l'amère philosophie de cet enfant, je restais un moment interdit. « Mais quel âge as-tu donc ?»« Je sais pas, il paraît que j'ai 12 ans. »« Écoute, il y a une concierge à qui j'en veux. »« Oh, du moment que c'est contre la pipelette, je marche. »« Bien. Bon, c'est à 2 pas d'ici, la maison que voilà. » Il y a un perroquet à la fenêtre. Il faudrait ouvrir la cage et donner la volée à l'oiseau. Tu vois que c'est pas bien méchant. Tout de même, ça suffira, car elle tient à son perroquet comme à ses petits boyaux. Mais si vous voulez, je lui tordrai le cou à la volaille. Non, 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 ça je te le défends. Si tu veux rester mon ami, fais comme je viens te le dire et pas davantage. « Suffit, mon prince !» Il passa en courant. Avec une souplesse et une précision d'acrobate, il sautait sur la margelle de la fenêtre ouverte, où Coco, les plus hérissés de contentement, se grisait d'air, de lumière et de chaleur. Il ouvrit la cage, la bascula, saisit l'oiseau dont il méprisa les cris assourdissants, et avec force il le lança sur le boulevard. La concierge, muette de surprise et d'épouvante, resta comme paralysée. Et le gamin avait disparu. Coco, d'abord étourdi, maintenant effaré, courait parmi les voitures, voltait autant que le lui permettaient ses ailes engourdies par la captivité. Ainsi, il atteignit l'autre trottoir, et s'aidant du bec des cerfs, en un rien de temps, il grimpa sur un arbre et disparut dans la frondaison déjà touffue. La concierge, ayant repris enfin l'usage de ses facultés, courait à son secours, et en émoi que tout le boulevard en fut ameuté. Elle se tenait devant l'arbre, les bras levés au ciel dans une pose hiératique. Avec les appellations les plus tendres, elle conjurait le fugitif de revenir. La foule s'attroupait, amusée. Quant à moi, j'avais bien mieux à faire que de perdre le temps en badauderie. Je me glissais dans l'immeuble, momentanément abandonné à la garde de Dieu. La concierge, dans son trou, n'avait pas pensé à fermer la loge. Je jetai à la ronde un regard scrutateur. Oh, le magot devait être là, dans le secrétaire. Un prétentieux meuble en acajou plaqué. Sous l'effort de mon rossignol, le secrétaire s'ouvrit en un moment. Dans une sébile, il y avait de l'or et de l'argent que je dédaignais. Mais tout à côté se trouvait un portefeuille. J'y pris des billets de banque, refermai le secrétaire, dont le pain ressortit docilement, et je montai chez mon ami le docteur. Il me cria bonjour, puis d'approcher, sans se déranger de la fenêtre, où le retenait un spectacle vraiment curieux. La concierge se tenait toujours devant l'arbre où le perroquet persistait à vagabonder de branche en branche, ce qui se décelait par l'agitation de la feuillée. Tout en larmes, elle ne cessait d'implorer, avec des mots plaintifs et charmants, l'objet de la tendresse, sourd à sa voix. Les passants, intrigués, s'arrêtaient, formaient cercle autour de l'arbre. Et le groupe s'augmentait sans cesse. Ceux du premier rang ne voyaient pas le perroquet obstiné à se dissimuler. Mais ceux des derniers rangs ne voyaient même pas la concierge. N'importe, la cohue, de plus en plus dense, se tassait, avide de savoir. Après avoir envahi le trottoir, elle obstruait la chaussée. Des fiacres, des omnibus s'immobilisaient dans un fouillis enchevêtré, en panne, devant cet étrange encombrement. Et soudain, nous entendîmes la corde insistante des pompiers. Au lourd galop des épais courtoursiers, tout un train de sauvetage s'amenait. La pompe, le dévaloir, l'échelle. Sans doute quelques badauds imaginatifs et effarés, ou bien un farceur, avait cassé la vitre d'un avertisseur d'incendie. D'ailleurs, les pompiers prirent la chose gaiement. Il y en eut un qui grimpa lestement le long de l'échelle dressée. Mais Coco, enivré de liberté, de son bec tenace, de ses cerfs opiniâtres, se laissa couler de l'immense propagé sur l'arbre voisin. Les pompiers, piqués d'émulation, déplacèrent l'échelle. Enfin capturé, le perroquet, aux applaudissements des spectateurs, fut rendu à sa maîtresse, qui, dans une joie folle, se hâta de regagner la loge et réintégra l'oiseau dans sa cage. Mais alors, la saine notion des réalités revenue, mue par une intuition soudaine, elle voulut constater que l'argent du terme était toujours là. Quel cri, Quel bruyant accès de désespoir! Les agents, qui s'occupaient de rétablir la circulation, accoururent. Ils firent fermer la porte de la rue, puis examinèrent l'état des lieux. Il y en eut un qui, devant le secrétaire, hocha la tête. « Bon, c'est pas de la cambriole crapuleuse. Plus trace d'effraction. Tout de même, si le voleur est encore dans la maison, et c'est probable, nous allons le trouver à l'étage des hommes où il a dû s'enfermer dans le goguenot. C'est toujours comme ça. » Il assura la boucle de son ceinturon à ce qu'il paraît, et suivi de son compagnon, d'un pas ferme, il gravit l'escalier. Quand ils eurent fouillé partout, sonné à chaque appartement, et s'y être enquis, ils eurent verbalisé contre inconnu. J'allais saluer la concierge, non sans compatir son malheur, et je sortis de la maison. Et tandis que je marchais en quête d'une voiture, le gamin, mon complice, surgit devant moi. Dites donc, patron, vous vous embêtez pas, mince alors. Le terme ce palais, c'est pas tout ça. Va falloir voter ma part. Hein, qu'est-ce que tu me chantes là? Bah, bouler la galette, que je dis. Non mais explique-toi donc. Oh, si vous faites le malin, ça va se gratter. Je le regardais droit dans les yeux. Il y avait dans son regard une expression de calme, de froide décision. Vrai, ce petit parigot, ce moutard me parut impressionnant. Il se prit à gouailler. Oh, je vous comprends. Vous figurez que j'aurais rien de plus pressé que de faire des bêtises, que j'irais montrer ma braise à tout le monde, et que je dépenserai à tort et à travers. Si bien que l'on fera, et que je vous donnerai l'argent. Dès que vous ne m'avez pas bien regardé, d'abord c'est vous, en bon papa, qui allez m'acheter des frusques, et puis vous me donnerez ce à quoi j'ai droit. Oh, je veux que la moitié du tout, par deux, j'ai travaillé, sans moi vous n'auriez rien, j'ai droit à ma part, je ne sors pas de là. Il s'arrêta un moment, reprit haleine et poursuivit. « Et ne vous bilez pas, ma famille, c'est moi tout seul. Et nip d'amis, les amis, c'est pas pour les pauvres. Maintenant je couche sur les fortifs, je veux changer de quartier. Avec ce que vous allez me donner, je vivrai à la douce et sans me faire remarquer. » Ma foi, je trouvais que cet enfant valait un homme. Quant à sa logique, elle me semblait saine. Ce qu'il soutenait apparaissait irréfutable. Par une élémentaire prudence, j'avais cru devoir le duper, ou, plus exactement, j'avais cru devoir garder le silence sur mon opération. Il ne me laissait pas faire. Il réclamait son dû. Je l'avais comme incliné, et à le traîner en accord avec son mérite. Je le fis monter dans la voiture que je venais de héler, je le promenai dans les magasins, où je le pourvus d'un trousseau de gentlemen. Puis, j'arrêtai pour lui une chambre dans une pension de famille, payant une année d'avance. Après quoi, je l'emmenai dans le dîner en cabinet particulier, dans un grand restaurant du boulevard, où, ayant au dessert compté mon butin, je lui remis sa part, soit 17 000 francs billets de banque. Je n'ai jamais revu cet enfant, ni entendu parler de lui.